de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission consacrée au cinéma. Pendant une demi-heure, nous allons parler de films qui sont sur les écrans. Et puis, on va aussi entendre un réalisateur, ce sera Mario Marton pour le film Fury qui a été présenté en compétition à Cannes. Et on va extraire bien une partie de ce qu'il a dit là-bas lors de la conférence de presse. Et puis, nous allons jouer aussi avec un blind test, avec la filmographie. Alors, non pas d'un réalisateur, ça aurait pu être Yorgos Lanthimos, parce que tu as vu le film Bugonia. Guillaume, ouais. mais j'ai choisi plutôt de faire un blind test autour de la filmographie d'Emma Stone. Mais donc, tu as vu le dernier Lanthimos et puis un autre film.
Oui, Bugonia, et je vais aussi vous parler d'un film qui s'appelle L'Intermédiaire.
Mais nous allons commencer par une plongée dans les doutes et les luttes intérieures de Mère Teresa avant qu'elle ne devienne l'icône que nous connaissons. Nous parlons du film Teresa.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Alors que cela fait un petit moment déjà que le biopic est à la mode, il n'y aurait eu que 3 longs métrages sur la vie de Mère Teresa, religieuse catholique devenue l'une des figures humanitaires les plus emblématiques du XXe siècle. La religieuse née en Macédoine a reçu le soutien de sa compatriote, la réalisatrice Teona Strugar-Mitevska, qui a réalisé donc Teresa en France, mais Mother, le titre pour l'international. Alors si l'on ne connaît rien de la vie de Mère Teresa, eh bien on n'en saura pas davantage en regardant ce film qui fait le pari de s'intéresser à 7 jours de l'icône religieuse. Une semaine qui la sépare du moment où elle va quitter finalement son couvent des sœurs de Lorette à Calcutta pour fonder son propre ordre des missionnaires de la charité afin de mieux venir en aide aux déshérités, tout en restant dans la mégalopole indienne qu'on a le temps de visiter dans ses quartiers les moins flatteurs, ce qui était le quotidien de la sœur.
Ces enfants, puis ces cadavres partout, et nous toutes, ici. Je suis une femme dans un système dirigé par des hommes. Moi, je suis prise au piège ici.
Le premier intérêt de ce film, Teresa, est donc de ne pas nous emmener dans des flashbacks et de suivre pendant une semaine donc Mère Teresa. L'autre est de nous la présenter avec tous ses paradoxes. Si nous voyons très clairement une religion catholique dont la hiérarchie est détenue par les hommes, une organisation que la religieuse aimerait combattre, eh bien on voit aussi une religieuse qui attend des sœurs et de son nouvel ordre de la rigueur. Elle passe donc à la fois comme une progressiste qui voudrait libérer les femmes, mais est rivée sur ses principes. Par exemple, quand une sœur lui demande des conseils sur l'avortement, s'ensuit d'ailleurs une discussion plutôt intéressante, éclairée par la parole divine, le père supérieur se montrant bien plus ouvert alors qu'il interprète finalement les mêmes textes que Mère Teresa. Tout cela est plutôt stimulant, même pour une personne qui n'aurait d'ailleurs aucune croyance religieuse.
À quoi servent ces murs dans cette prison, attendant confortablement que le monde change? Il faut soi-même donner l'exemple si on veut que les autres le suivent. Se vêtir d'un simple et modeste sari en coton. Prier le rosaire en chemin. Est-ce que je deviens folle?
Vous devriez vous méfier de votre orgueil, très cher. Vous inspirerez des milliers d'autres personnes qui sauveront des millions et des millions de vies.
L'autre intérêt du film est sa construction. Il y a certes des répétitions, notamment entre les nombreux dialogues qu'elle a avec une religieuse polonaise, ceux avec son père supérieur, les allées et venues entre les quartiers pauvres et son couvent, mais il y a aussi quelques élans de mise en scène, alors assez surprenants, comme l'utilisation de Hard Rock Alléluia, chanson du groupe finlandais Lordi, alors qui n'est pas très catholique pour le coup, tandis que l'on voit danser le couvent de Bonne Sœur. Il y a enfin le choix de choisir Naomi Rapace pour incarner incarner Mère Teresa alors qu'elle a 38 ans. Une réussite, hein, l'actrice amenant autant de dureté que de bonté, et puis aussi autant de raideur hein, que de rébellion. Ce Teresa de Teona Strugar-Mitevska est donc plutôt loin hein, du film empoulé sur l'icône Mère Teresa que l'on aurait pu attendre sur celle qui a reçu le prix Nobel de la paix en 79. Le film Teresa est en salle depuis le 3 décembre. Riz Ahmed est l'homme de l'ombre qui règle tous les problèmes du monde de la finance jusqu'à ce que son propre système s'effondre. Nous parlons de l'intermédiaire.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous ?
Cinérama. Cinérama.
David Mackenzie fait partie de ces réalisateurs discrets, hein, mais qui arrivent régulièrement à faire un petit film vraiment enthousiasmant. Alors jamais d'étincelle, mais toujours un peu de cœur qui permet à une œuvre de sortir un peu du lot et de proposer un agréable petit moment de cinéma. Alors dans cet éclectique et plutôt sage filmographie, hein, il faut mentionner Rock'n'Love, hein, une belle romance entre deux rockstars que tout oppose, tournée pendant un vrai festival de rock. Il y a aussi Perfect Sense, où Eva Green et Ewan McGregor apprenaient le sens de l'amour alors qu'une mystérieuse pandémie efface justement un à un les cinq sens de l'humanité. Et il y a aussi Les plus durs, Les points contre les murs ou Comancheria, relecture du film de prison ou du western moderne salué en leur temps. Alors ce qui n'est pas pour nous déplaire, c'est qu'à chaque fois Mackenzie entraîne toujours au moins un duo d'acteurs dans son sillage et leur permet de briller ce qu'il faut pour délivrer une performance vraiment mémorable. Alors l'intermédiaire ou relais en VO est l'une de ces modestes petites réussites qui font certes pas exploser le box-office mais qu'il est agréable de voir encore sur un grand écran et non sur une plateforme, une production simple mais bien huilée qui avait il y a 30 ans pignon sur rue mais dont la formule c'est malheureusement depuis dilué dans ce qu'on appelle barbarement du contenu.
Je m'appelle Sarah Grant. Je suis en possession de documents qui prouvent qu'ils se sont rendus coupables de dissimulation illégale.
Il existe de nombreuses organisations de soutien aux lanceurs d'alerte.
Non, je veux leur rendre tous les documents.
Il y a de nombreux canaux officiels, mais il existe aussi d'autres canaux.
L'intermédiaire met en scène Riz Ahmed et Lily James dans un thriller paranoïaque, soit une nouvelle déclinaison des univers qui enferment les personnages du cinéma de Mackenzie et dont la porte de sortie est non seulement capitale pour leur survie, mais sera aussi la clé d'un voyage au bout d'une révélation qui va leur montrer qui ils sont vraiment. Tom est un fixeur qui organise des négociations entre des entreprises corrompues et des lanceurs d'alerte. Sarah est une chercheuse qui souhaite rendre un dossier prouvant une tentative de dissimulation venant du géant de la biotech qu'il avait embauché. Alors faute d'une aide légale et d'une assistance, on l'oriente vers ce système officieux où opère Tom, où la communication se fait intégralement par le Tri-State Relais, un espèce de centre de relais téléphonique pour sourds et malentendants. Alors Tom s'exprime par un clavier lié à son portable pour ne révéler ni sa voix ni sa position, et ses propos sont lus par l'un des intermédiaires du titre, un relais. Sans tomber dans la comparaison exagérée, Mackenzie s'amuse à faire un petit exercice de style Hitchcockien et fait penser à l'un des premiers films muets du maître. En 1928, sortait Le passé ne meurt pas ou Easy Virtue en VO, qui est surtout mémorable pour une scène absolument brillante où une demande en mariage est faite par téléphone et est vue uniquement par la réaction de la standardiste. Le suspense et l'intensité naissent de son regard et de ses mimiques, le tout à distance, sans que nous ayons besoin d'images supplémentaires, ses réactions nous faisant comprendre toute la conversation. Alors bien sûr, l'intermédiaire est plus démonstratif, mais l'artisanat de Mackenzie sait nous maintenir en haleine. Surtout que thriller paranoïaque oblige, il nous entraîne sur les terres d'Alan J. Pakula et de Francis Ford Coppola à cause d'un assassinat et conversations secrètes en tête et nous plonge dans une ville tentaculaire et étouffante.
Qui est-ce ?
J'aide les gens qui voient des choses qu'ils n'auraient pas dû voir, qui auraient peut-être dû fermer les yeux mais qui n'ont pas pu.
Je ne l'ai jamais rencontré, ce qui est logique. Ils opèrent à la manière d'un service de messagerie. C'est eux qui vous rappellent.
Alors on évite cependant malheureusement pas un troisième acte pas vraiment à la hauteur de ce que nous avons pu voir et qui empêche l'intermédiaire de vraiment s'émanciper de sa structure avec certains clichés ou rebondissements plus ou moins attendus qui viennent un peu saborder notre plaisir. Alors en l'état c'est quand même tout à fait consommable et agréable à défaut d'aller jusqu'au bout de son idée de départ très visuelle qui aurait pu mettre ce thriller vraiment au-dessus du lot.
L'intermédiaire de David Mackenzie est en salle depuis déjà la fin novembre. Fury explore la solidarité féminine, la révolte intérieure et la renaissance d'une écrivaine à travers l'épreuve. Nous parlons d'un film qui était en compétition à Cannes.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique.
invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Mario Marton, qui n'est pas le plus connu des réalisateurs italiens, mais qui a vu pourtant plusieurs films présentés en compétition officielle à Cannes, est un habitué des biopics, on peut dire ça. Il en a déjà fait sur le poète Leopardi, puis sur Eduardo Scarpetta. Cette fois-ci, avec Fuori, il s'est attaqué à la figure de Goliarda Sapienza, une écrivaine italienne à la trajectoire alors assez insolite, car son succès fut posthume avec son roman fleuve L'Art de la Joie, alors qui fait plus de 630 pages, 835 hein, même en format poche. Un roman d'apprentissage féminin qui suit le parcours de Modesta, qui traverse les grandes secousses politiques de son époque, notamment la montée du fascisme. Alors pour ce biopic, le réalisateur italien s'intéresse à la romancière interprétée par Valeria Golino sur ses années passées en prison et les relations qu'elle a entretenues avec les anciennes détenues. On y suit plus précisément le lien que tisse Goliarda Sapienza auprès de Roberta, une jeune fille effrontée. Alors il s'agit là presque d'une relation amoureuse, faite de petits rendez-vous dans une Rome qui se dévoile.
Come ti chiami?
Goliarda Sapienza.
Avec la manière dont le réalisateur aborde son récit, on est très loin du biopic conventionnel. Le réalisateur affirme que c'est avant tout une histoire de liberté, de sororité et de rédemption. Il parvient à camper le portrait d'une femme libre, pour ne pas dire libertaire, et des personnages qui l'entourent, et qui en donne donc des clés. Le fiori du titre signifie « dehors ». Alors il s'agit là d'un paradoxe, car la romancière Goliarda Sapienza affirmait que son enfermement lui avait apporté une forme de libération intérieure, grâce notamment aux liens qu'elle tisse avec d'autres détenus. En rupture avec le monde littéraire qui refuse son livre, de son côté, la romancière refuse les conventions de son époque. Le film se partage donc entre des moments de solitude, des moments partagés, et puis entre un présent et le passé dans la prison qu'elle a côtoyé après ce fameux vol de bijoux. Ce long métrage est traversé par une certaine forme de douceur, et puis une sensibilité, et puis une mélancolie, et enfin l'introspection. On va écouter Mario Marton, le réalisateur de ce film qui était en compétition à
Goliarda Sapienza est un auteur que je vénère. Je voulais raconter sa vie. J'adore raconter la vie des artistes. Goliarda Sapienza n'était pas non seulement un auteur de talent qui partait toujours à la découverte, un auteur à découvrir, mais aussi une artiste qui n'a jamais été reconnue de son vivant en Italie. Donc elle méritait notre attention encore plus aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, parce que sa vie parle aux jeunes générations. Elle a été une rebelle, une femme libre, émancipée et gênante en quelque sorte, à bien des égards. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'elle avait de bonnes raisons qui n'ont pas été comprises. Avec Ippolita Di Maio, nous sommes dit qu'il ne faut pas simplement raconter ce qu'elle a fait, mais dresser un portrait. Et quelle était la meilleure opportunité que cet épisode incroyable dans sa vie, ou dans un moment de grande difficulté, elle a fait ce geste incroyable et qui d'ailleurs l'envoie en prison. Et donc, cette période en prison devient une espèce de résurrection pour elle. Ça a été une occasion extraordinaire de faire un portrait de Goliarda Sapienza avec Roberta, Barbara et tous les autres prisonniers. Et il y a aussi cette photo où on voit Goliarda avec Roberta, Barbara, Suzy Wang, emprisonnée, la chinoise. Et donc ce sont des gens qui vraiment ont vécu, qui ont existé, mais qui, grâce à son imagination, ont adopté une nouvelle dimension. Et quand on voit Goliath, on voit tout ce qu'elle a traversé comme affre.
C'est une criminale, exactement comme moi.
Più di questi salotti, loro non ne possono più di me.
C'était Mario Martone, le réalisateur de Fury, film sur les écrans depuis le 3 décembre. Allez, après l'interview, nous allons pouvoir jouer, mais nous jouerons après avoir entendu la chronique de Bugonia. Deux hommes ordinaires kidnappent une femme qu'ils croient être une reine extraterrestre sur le point d'asservir les humains. Nous parlons donc de la comédie noire de Yorgos Lanthimos.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Comment tu sais que c'est une extraterrestre ?
Eh bien, les signes sont évidents.
Ben oui, rien n'arrête hein, Yorgos Lanthimos et Emma Stone. Hein. Après le baroque Pauvre Créature et le déjanté Kinds of Cadness, les voici déjà de retour pour un troisième film en l'espace de moins de 3 ans avec Bugonia, donc un autre voyage aux frontières du réel. Ou plutôt, qui marche hein, sur les plates-bandes de la SF, tout en assumant à son habitude hein, ses pas de côté sous forme d'élan poétique, vision hallucinée et plan symétrique plus dérangeant qu'harmonieux. Mais ce dernier effort a une singularité qui le différencie de ses autres productions récentes. Hein. Bugonia, c'est un remake hein, d'un film coréen complètement fou hein, de Jang Jun-won de 2003 intitulé Save the Green Planet avec un point d'exclamation à la fin.
Je vous salue. Bienvenue au quartier général de la résistance humaine.
Où sont mes cheveux ?
Vos cheveux ont été détruits. Pour que votre vaisseau ne vous contacte pas.
Mon vaisseau, pardon ?
Votre vaisseau mère.
D'accord.
Point d'exclamation à la fin du titre du film d'origine car Save the Green Planet est complètement fou. Hein, tellement fou qu'il avait été une grosse sensation de festival à l'époque, à défaut de toucher un grand public, et avait même eu droit à sa sortie en France. Hein. Auréolé hein, d'une multitude de prix internationaux, une nouvelle version était depuis plusieurs années hein, sur la table et l'un des intéressés qui avait failli la mettre en boîte n'était rien d'autre qu'Ari Aster, un temps devenu un chouchou des critiques et du public du cinéma indépendant avec Hérédité et Midsommar, avant de connaître de gros échecs avec Beau is Afraid et Eddington. La sortie de ce dernier datant de cet été. Alors la proximité entre la sortie d'Eddington et Bugonia est tout sauf une coïncidence, hein. Aster est d'ailleurs l'un des producteurs de Bugonia, car ce projet de remake de Save the Green Planet s'inscrit dans une certaine tendance politique du cinéma indépendant américain. J'ai cité Eddington, mais Bugonia joue aussi hein, sur les mêmes terres qu'une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, qui a aussi à cœur hein, d'utiliser son sujet pour regarder en face, via un complexe jeu de miroirs et de genre, l'état des lieux américains des années 2020. Bugonia reprend certes le même point de départ que Save the Green Planet, à savoir le kidnapping d'un riche industriel par des zozos complotistes et vrais désaxés qui pensent qu'il est un alien qui les contrôle et qui vont tout tenter pour le faire avouer et capituler.
Dans les prochaines 48 heures, la police et le FBI vont lancer une immense chasse à l'homme. Je suis une femme PDG très médiatique. Je suis essentielle. En toute modestie, cela s'entend. C'est un peu comme enlever le gouverneur, mais en pire. Il n'y a aucun scénario possible dans lequel vous tireriez profit de cet incident.
C'est très fort.
Peut-être est-ce parce que nous avons eu beaucoup de Lanthimos ces derniers temps, mais Bugonia est un film qui donne l'impression de bégayer. Non pas parce qu'il est très très bavard, hein, ce qui est l'un des menus défauts, mais aussi l'assurance d'avoir d'intenses performances d'acteurs, mais parce que les ficelles du cinéma de Lanthimos sont désormais mises hein, tout en lumière, hein, ce qui réduit leur portée quand ça ne neutralise pas tout simplement l'efficacité du film. Alors comprenons-nous bien, hein, Bugonia est tout à fait fréquentable et séduira assurément hein, les amateurs de son cinéma, mais il constitue la proposition la moins sensationnelle hein, de ce que le réalisateur a fait ces 3 dernières années, car malgré son pitch un peu fou, ben on a une impression de déjà-vu, d'effet de surprise dilué hein, et d'un jusqu'au boutisme moins extrême. Hein. D'où le fait que c'était casse-gueule hein, de vouloir faire un remake d'un film aussi fou que Save the Green Planet hein, et d'en livrer une version un poil plus sage. On parle quand même du film hein, qui, à mon sens, propose le clin d'œil le plus dingue au 2001 de Kubrick. Hein, ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Alors oui, c'est rigolo de voir les kidnappeurs torturer la patronne hein, en mettant Basket Case The Green Day. Hein, Basket Case étant une expression désignant les fous en anglais hein, et ce, sans qu'ils se rendent compte qui se désignent eux-mêmes du doigt, mais cela ne va pas beaucoup plus loin à cause du traitement distancié de son réalisateur.
J'ai fait des tonnes de recherches là-dessus. Vous tuez notre planète.
Saleté d'extraterrestre.
Je ne suis pas une extraterrestre.
Vous me mentez.
Quelle différence ça fait ? Vous savez que c'est de la folie. Vous savez que c'est mal.
Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous êtes.
Je vous connais aussi, Teddy.
Peut-être est-ce l'époque qui prête, entre guillemets, moins à sourire, quoique les années de plomb ont donné des brûlots italiens toujours aussi incandescents, alors que le pays vivait des moments d'une grande violence. Mais l'impression constante d'assister à un délire arty réduit le message et la portée du film, qui sont, eux, d'une extrême importance, et peut-être encore plus aujourd'hui, en ces temps d'inégalités folles. Et je dois avouer que malgré leur très énorme, grande, impressionnante qualité, j'ai eu le même sentiment devant Eddington et Une bataille après l'autre, qui semble mettre plus ou moins, malgré eux, le public de côté, alors qu'il parle d'eux. Bugonia me rappelle surtout comment John Carpenter avait réussi à transformer sa colère sous les inégalités sociales et économiques des années Reagan en brûlot contestataire avec Invasion Los Angeles ou They Live dans un anglais bien plus évocateur, et qui avait rendu son film d'une efficacité redoutable en plaçant son message au fond d'un grand film de spectacle de science-fiction et d'action tendue. C'est d'ailleurs ce que ne manque pas de rappeler Bugonia, c'est le message de They Live. They live, we sleep, ils sont parmi nous, nous dormons.
Alors moi j'ai vu Bugonia, je suis un grand fan de Yorgos Lanthimos, surtout Pauvre créature, que j'avais trouvé être son film au summum dans cette espèce d'ironie cruelle. Là il y a aussi de ça, mais je trouve que l'histoire, le pitch, donc c'est ils sont pas vraiment des abrutis comme on pouvait en voir dans les films des années 70, les rednecks qui s'en prenaient aux autres, aux gens bien habillés. Non, là ce sont plutôt quelqu'un qui est bien informé, qui avec son cousin donc va kidnapper une femme à la tête d'une multinationale, et parce qu'ils prétendent qu'elle est extraterrestre. Et elle, au bout d'un moment, il y a cette espèce de longue conversation entre l'otage et puis ceux qui la prennent en otage, et elle va essayer plusieurs versions: je suis une extraterrestre, je n'en suis pas, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, je trouve que c'est très habile, et que même si elle n'est pas extraterrestre, d'un certain côté elle est vraiment extraterrestre pour eux, parce que là ils posent la distinction sociale entre ces types qui vivent dans une maison pourrie et qui sont habillés comme des locs, et puis elle qu'on voit tout de suite faire du tai chi, faire du combat, et ainsi de suite, et avoir une vie saine. Il y a quelque chose qui se joue ici qui est hyper intéressant, parce que finalement on s'en fout qu'elle soit extraterrestre ou pas. Elle a une position sociale, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui fait parler de notre époque, et peut-être des États-Unis, parce que c'est ça aussi qui est montré du doigt. Ce sont des électeurs de Trump qui prennent en otage quelqu'un, quoi.
Oui, c'est ça. Mais on part sur ce principe-là, et les attentes qu'on a par rapport à la patronne et par rapport à ces gens. Et ce que je trouve vraiment réussi dans le film, c'est que chacun a une dimension extrêmement bien travaillée, et Lanthimos ne tape pas dans les clichés qu'on pouvait attendre.
Puis après, donc, il y a le jeu. Alors Jesse Plemons est vraiment extraordinaire, et Emma Stone tout autant. Elle se met la boule à zéro, tout y est. Et puis il y a le film va jusqu'à ce twist dont on ne peut pas parler, mais moi j'ai pris un immense plaisir, mais c'est souvent le cas avec Lanthimos, mais peut-être parce que j'aime cette... Alors tu parlais de la distance, il y a effectivement une distance, c'est un réalisateur qui est un réalisateur de la distance, mais j'aime plutôt ça. Voilà, Bugonia est en salle actuellement. Et ça nous donne l'occasion de jouer avec la filmographie d'Emma Stone. Alors on aurait pu même faire une filmographie Emma Stone intégrée à la filmographie de Lanthimos, puisqu'elle a joué dans 4 de ses films. Mais non, on a quand même étendu à plusieurs films. Elle a fait 27 longs-métrages, Emma Stone, l'actrice de 37 ans. Donc le principe, on écoute tout de suite un extrait et il faut trouver le titre.
Et Billine ? Il y a un autre sujet qui m'intéresse. Je vais avoir besoin de vous. J'aimerais m'entretenir avec vous sur votre vie et votre condition de domestique. Je voudrais écrire un livre sur les Noirs qui travaillent pour les Blancs. On pourrait expliquer ce que c'est que travailler, par exemple, pour Elisabeth.
Vous savez ce qui m'arriverait si Miss Liefold apprenait que je parle d'elle ?
Eh ben, j'ai pas l'intention de lui dire. Les autres bonnes aussi devront garder le secret.
Les autres bonnes.
J'espère en trouver 4 ou 5. Pour montrer ce qui se passe réellement à Jackson.
C'est trouvé.
C'est La couleur des sentiments ?
Oui, de Tate Taylor, film de 2011, qui a fait connaître Emma Stone. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Squitter, une jeune journaliste dans le Mississippi des années 60, décide de recueillir la parole des domestiques afro-américaines. Son initiative bouleverse l'équilibre de la communauté et révèle les injustices cachées derrière les façades respectables. 712 000 entrées en France pour ce film. Allez, voici maintenant le deuxième extrait de ce blind test consacré à la filmographie d'Emma Stone.
Non ! Non.
Si tu veux que je me taise, va falloir que tu m'expliques. Si tu veux que je me taise, va falloir que tu m'expliques sérieusement pourquoi tu ne l'as pas.
Parce que j'ai passé un million d'auditions et qu'à chaque fois, c'est la même chose. Soit on m'interrompt parce que quelqu'un va chercher un sandwich, soit quand je pleure, quelqu'un se met à éclater de rire. Soit celles qui attendent leur tour dans la salle d'attente, elles sont comme moi, mais en plus mignonnes et meilleures actrices. Parce que je suis peut-être pas assez bonne.
Si tu l'es.
Non. Non, peut-être pas.
Si tu l'es.
Peut-être pas.
Si tu l'es.
Peut-être pas.
Si tu l'es.
Peut-être que je fais partie de celles qui en ont toujours rêvé. Mais c'est maintenant une chimère. Pour moi, toi-même, tu me l'as dit. T'as dit, il suffit de changer de rêve pour qu'ensuite on grandisse. Peut-être que comme tous ces gens, je suis pas faite pour ce métier. Je peux reprendre mes études et ensuite trouver un boulot qui me corresponde. J'avais quitté cette ville. Pour faire ça, ça fait maintenant 6 ans et j'ai plus envie de continuer.
Facile à trouver.
Oui, bah c'est La La Land qui a mis un peu Damien Chazelle en orbite.
Ah oui, carrément. Mia, aspirante actrice, et Sébastien, pianiste de jazz, vivent une histoire d'amour rythmée par leurs ambitions artistiques. Leurs rêves les rapprochent autant qu'ils les obligent à faire des choix qui pourraient les séparer. 2,7 millions d'entrées en France. Oui, on peut parler de succès. Allez, troisième extrait, filmographie d'Emma Stone.
Aujourd'hui, je crois comprendre. Pourquoi tu as toujours eu peur que je sois aussi folle que l'est ma vraie mère? Ça explique tous les trucs du genre « tâche de t'intégrer, sois discrète ». Me façonner avec amour, c'était ça le but, j'imagine.
Alors, ça ne ressemble pas au reste du film, c'est précisément le passage où tout se calme. C'est un film grand public, parce que Emma Stone, elle a joué dans Amazing Spider-Man, évidemment, elle a joué dans des grands films, c'est ce que montre ce blind test.
Ouais, elle a une carrière assez éclectique.
Donc là, c'est un grand film qui n'a pas très bien marché, 1,4 million d'entrées en France, c'est la firme Disney qui l'a sorti.
C'est Cruella.
Cruella, et oui, film de 2021.
De Craig Gillespie. Oui. Qui j'ai envie de le préciser, est un réalisateur assez brillant. Si vous n'avez pas vu Moitonia, c'est un petit chef-d'œuvre.
Et bien là, c'est Estella qui est une jeune créatrice rebelle et qui tente de se faire un nom dans le Londres punk des années 70. Sa rivalité avec une grande couturière la pousse à révéler son alter ego extravagant et impitoyable Cruella.
Il y a aussi l'excellent Paul Walter Hauser dedans, qui est un fidèle de Craig Gillespie.
Allez, un nouvel extrait pour ce blind test consacré à la filmographie d'Emma Stone.
Vous savez que je vous aime.
Vous ne devriez pas être si pressé de donner votre cœur.
En plongeant vos yeux dans les miens et avant même de me connaître, vous m'avez mieux connu que moi-même. Tous mes rêves, toutes mes ambitions. Pitié, ne me dites pas que vous en aimez un autre.
Ah mais non, 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 bien sûr que non. Je n'ai jamais eu le temps d'aimer qui que ce soit. Nous sommes, maman et moi, en permanence sur la route. Contrairement à vous, nous sommes de la classe ouvrière.
Tout ça, c'est fini. Je vous bichonnerai, je m'occuperai de vous toute votre vie. Aimez-vous voyager? Je veux dire, sur des yachts? Est-ce que vous aimez aller à des fêtes, acheter des bijoux, de jolies toilettes, aller danser?
Je suis une très bonne danseuse et je me ferai sans peine aux bijoux et aux yachts.
Allez, c'est trouvé.
C'est Magic in the Moonlight de Woody Allen.
Oui, film de 2014. Un prestidigitateur sceptique est chargé de démasquer une jeune médium dont les dons troublent la bonne société de la Côte d'Azur. Mais la rencontre met à l'épreuve ses certitudes rationnelles, comme son cœur. 1 million d'entrées pour ce film. Dernier extrait de ce blind test.
Tu m'as toujours dit que tu étais le meilleur amant du monde. Et comme je n'en avais pas connu d'autres, je ne savais pas si c'était vrai ou non. Mais maintenant, je sais. Il était vraiment nullissime. Et il a produit des sons pas très catholiques, tandis qu'il s'agitait en moi. Et à peine 3 coups de rein, Duncan Wedderburn, c'est tout ce qu'il a pu donner. Je me suis retenue de rire, par politesse, naturellement. Et j'ai pris son argent, je l'ai remercié, j'ai ri jusqu'à la boulangerie où j'ai acheté ses éclairs, et c'est avec beaucoup de tendresse que j'ai repensé à nos folles nuits qui nous laissent en sueur.
Tu as baisé pour de l'argent?
Tout à fait, et pour l'expérience. Et c'est excellent pour notre relation, puisque cela ravive mes sentiments pour toi. Sentiments un peu en berne dernièrement à cause de ton caractère plaintif et grossier.
Voilà, donc là, elle joue une... elle vient de raconter qu'elle a fait une passe, et c'est sa première. Hein. C'est une femme qui est dans la découverte, tout le temps dans les expériences.
Elle ne me parle pas, non. L'extrait en français ne me parle pas.
Ah bon, c'est le pauvre créature de Yorgos Lanthimos.
Film de 2023. Je l'ai vu en VO.
C'est l'apprentissage de la prostitution, et après, il y a cette longue séquence dans le bordel parisien qui est vraiment, vraiment merveilleuse à se tordre de rire, pour peu qu'on ait envie de rire. C'était 594 000 entrées quand même en France pour ce film, précédent film de Yorgos Lanthimos.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine et tu auras un film.
Oui, je vais vous parler de Louise.
Et puis moi, j'ai vu le film sur Brigitte Bardot. Nous en parlerons et nous ferons un blind test autour de la filmographie de l'actrice française. À la semaine prochaine.